L'info du jour avec aujourd'hui, en ce 31 décembre, pour finir l'année en beauté, le pilote franco-britannique François Perraudeau, fidèle client de Courchevel et que l'on reçoit toujours avec le même plaisir. François Perraudeau, la dernière fois que vous êtes venu sur cette antenne, c'était en janvier 2020. Alors à l'époque, on ne se doutait pas encore que nous allions rentrer dans une longue période d'incertitude et de crise sanitaire mondiale. Et puis entre-temps, tous, dans nos milieux respectifs, nous avons fait ce que nous avons pu. Alors là, j'avoue que j'ai beaucoup de questions à vous poser parce que vous êtes avant tout un industriel dans l'énergie, mais donc vous êtes pilote, vous êtes aussi vigneron dans le Bordelais. Et je me suis dit que dans tous ces domaines, la crise sanitaire a dû avoir des répercussions. Alors commençons par les affaires. Vous dirigez la société familiale Perenco, vous êtes dans l'oil and gas, hein, avec quelques 6000 employés dans le monde. Durant la crise, et vous m'arrêtez hein, si je dis une bêtise, il y a eu, je crois, deux catégories. Il y a eu les exploitants de champs pétrolifères, comme vous, et puis il y a eu ceux qui traitent les produits pétroliers. Or, les premiers, comme vous, ont vu leur chiffre d'affaires tout d'abord baisser en même temps que la consommation de pétrole, et puis les seconds, leur marge augmentait parce qu'ils achetaient justement le pétrole moins cher pour revendre leurs produits au même prix. Ça a dû être une période difficile pour vous, non ?
Ouais, ça a été très très compliqué en effet, dès le mois de mars-avril, surtout quand les pays ont commencé à fermer leurs frontières les uns après les autres. Et comme vous le disiez, ça a été le plus dur à gérer, ça a été la logistique de mes employés, parce que on n'a pas vraiment le choix, Covid ou pas Covid. La demande, même si elle chute énormément, elle reste là. Et surtout, on ne peut pas arrêter les champs comme ça du jour au lendemain, parce que c'est très compliqué de les redémarrer après. Donc on a dû gérer les rotations de mes collègues. Normalement, ils travaillent sur un régime rotationnaire de 5 semaines oui. Sur la plateforme, qu'elle soit onshore ou offshore, en mer ou à terre. Et là, certains de mes employés ont dû faire jusqu'à 16 semaines. Sur la plateforme, donc vous imaginez, c'est dur, c'est très compliqué, et j'en profite pour les remercier parce que c'est un bel exploit. Et puis à contrario, il y a ceux qui ne pouvaient pas aller travailler parce que justement ils étaient coincés chez eux. Alors il n'y avait pas encore toutes ces histoires de quarantaine, de tests, ça a duré 2-3 mois, et en même temps, donc comme vous le disiez, une gestion d'un prix du baril qui a chuté avec des prix négatifs, même aux États-Unis sur l'index WTI. Il y avait, on va dire, un jeu de traders et de demandes et d'offres qui s'est opéré, mais même sur l'ensemble de l'année 2020, de mémoire, je pense qu'on parle d'un prix du baril à $40.
Oui.
Donc je répète ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que les exploitants directs comme notre société ont perdu de l'argent, et après c'est normal, hein, c'est ce qui se passe quand on a un prix de vente qui est directement indexé sur le prix du baril.
On sait tous comme consommateurs que le prix du baril a très sérieusement repris le dessus, hein, depuis ça va mieux maintenant.
Oui, tout à fait, non, ça va mieux, et on vit comme ça aux aléas de l'évolution du prix du baril, hein, ça fait un peu le yo-yo. Donc moi personnellement, je trouve qu'il est remonté trop vite, trop haut, mais en tout cas pas à l'image de ce qu'on peut vivre au quotidien, tout du moins en Europe. Mais c'est vrai que finalement on voit qu'aujourd'hui le prix du baril reflète un marché mondial qui est tiré par l'Asie, la Chine et puis les États-Unis. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'il est particulièrement haut, un peu trop haut à mon goût, mais on fait avec.
Nous n'avions jamais vécu une crise mondiale comme celle-ci. Elle a créé la fébrilité, l'anxiété dans le monde des affaires. Vous n'y avez pas échappé, vous avez été anxieux.
Ah oui, ça a été très dur. Très très dur. Non, surtout, on va dire avril-mai 2020. Là, effectivement, on passe des nuits très courtes.
Ouais.
Non seulement entre un baril qui vaut moins de $20, puis surtout quand on a des centaines d'employés qui eux aussi sont anxieux, sont stressés. Certains sont postrés chez eux, ils ne veulent pas sortir. D'autres sont sur plateforme, ils sont coincés, ils ne peuvent pas rentrer à la maison. Donc c'est dur, et puis c'est là qu'il faut, il faut mener le navire, il faut montrer l'exemple, et puis tâcher déjà de rassurer ses collègues et puis naviguer à vue, hein, je pense, comme beaucoup de monde l'ont fait.
Parlons automobile. Lorsque vous êtes venu nous voir en janvier 2020, vous couriez au sein de l'écurie AF Corse. Vous avez couru cette année sur Ferrari 480 GTE aux côtés de Nicolas Nielsen et Alessio Rovera. Vous avez remporté pour la deuxième fois consécutive le championnat. C'est votre troisième victoire pour ce qui vous concerne. Au milieu de tout cela, vous avez été nommé Gentleman Driver of the Year en endurance. Racontez-nous cette année, cette année et demie hors norme. Est-ce que le Covid a beaucoup perturbé le monde de la course automobile ?
Oui, complètement. À l'instar du monde entier d'ailleurs. Donc, toutes les activités sportives, on va dire, ont été largement impactées. Et surtout un sport comme le sport automobile, parce qu'on a besoin de beaucoup de logistique pour voyager à travers les différents pays, en ce qui concerne le championnat du monde en tout cas. Donc je me souviens, on était en mars 2020, la prochaine course devait être les 1000 miles de Sebring en Floride. Bien sûr, course qui a été annulée. Et puis après, donc on a vécu quelques mois d'adaptation où là, la FIA et la CEO de l'Automobile Club de l'Ouest, ils ont décidé, et à raison, de marquer une pause, de voir un petit peu dans quelle direction se dirigeait un petit peu le monde entier. Le championnat a pu reprendre comme tous les autres sports, mais malheureusement à huis clos. Donc ça a été un petit peu compliqué de courir sans spectateurs, mais au moins on a pu quand même terminer le championnat. Bah pendant ce temps, on prend son mal en patience, on s'entraîne comme on peut, on fait du simulateur et puis on tâche d'être prêt quand les courses reprennent. Et effectivement, ça a été une très belle fin de saison 2019-2020 et une très belle saison également 2021 puisqu'on est deux fois champion du monde d'affilée.
Ça fait plaisir à dire. Alors, ouais. Il faut beaucoup d'argent pour faire tourner une écurie automobile et quand il n'y a plus de courses ou en tout cas plus de retransmission, il n'y a plus de droits télé, enfin il n'y a plus les budgets nécessaires. Comment est-ce que vous avez tous réussi à maintenir le milieu en état? Comment est-ce que l'automobile a traversé cette période?
Alors, il y a deux catégories de pilotes, je dirais. Il y a les pilotes amateurs, qui sont mon cas. Et là, en ce qui nous concerne, on finance à 100% notre saison automobile. On court soit avec des amis, et à ce moment-là, on peut partager le budget, soit on paye des professionnels, soit on a de l'aide de constructeurs, comme dans mon cas Ferrari, qui me fournit gracieusement des pilotes professionnels. Et après, est-ce que vous disiez, oui, c'est ça, pour les constructeurs, évidemment, tout le monde a serré la ceinture. Et là, évidemment, moins de partenaires, moins de sponsorship, moins de droits télé. Dans le championnat comme le World Endurance Championship, il y a eu moins de courses. Certaines courses ont été reportées, d'autres annulées. Donc on fait avec, on serre la ceinture et puis heureusement c'est reparti un petit peu cette année.
Une Ferrari 480 GTE ça marche bien, mais de toute évidence ça ne vous suffit pas puisque votre écurie fait son retour en LMP2. Expliquez-nous s'il y a une grosse différence quand on monte une écurie avec un prototype, alors là en l'occurrence châssis Oreca, moteur Gibson,
exact.
Ça déménage ?
Ça déménage, ça va pas forcément beaucoup plus vite, par contre le pilotage est très différent par rapport à une Ferrari 488 qui est une GT, donc qui est une voiture qui reste somme toute assez lourde, qui est basée sur un modèle de route, hein, qui est la 488 GTB, donc évidemment c'est pas du tout les mêmes autos, mais on part d'un châssis similaire. Là sur une Oreca, c'est une voiture qui est entièrement dessinée pour la piste. La différence, c'est évidemment le poids. En termes de puissance, il n'y a pas une différence énorme. Elles sont à peu près similaires. Mais c'est surtout donc une différence de poids et de charge aérodynamique. Donc là, on est dans le domaine des voitures type prototype, voire Formule 2, Formule 3, Formule 1. Ce sont des voitures qui génèrent beaucoup de charge. Donc plus on va vite dans les virages, plus on a de grip. Pour un amateur, c'est pas évident. Après, c'est un choix qui était réfléchi et raisonné. Après 3 titres mondiaux en GT, je me suis dit avec mes camarades... Tentons un nouveau challenge, ça va nous motiver et puis on va voir ce que ça donnera.
Il y a une chose que le Covid n'a pas ralenti, c'est votre entraînement physique, parce que depuis toujours vous faites énormément de sport et particulièrement lorsque vous êtes sur Courchevel. À maintes reprises l'été dernier vous êtes venu faire de l'escalade, il faut dire que vous adorez la montagne et puis l'hiver vous pratiquez tous les sports de glisse bien sûr.
Ouais, bien sûr, un grand amoureux de la montagne et puis surtout Courchevel, bien sûr. Un seul regret, c'est que j'ai découvert un petit peu tardivement Courchevel l'été.
Oui.
Ça a été un vrai coup de foudre. Hein. J'ai découvert ça il y a 4-5 ans. Maintenant,
vous avez fait le col de la Lauze en vélo. Vous avez tout essayé.
Exactement. Hein, le col de la Lauze, c'était bien dur parce qu'on peut pas dire que j'ai un gabarit de cycliste, mais c'est un beau challenge. C'est un beau challenge pour un débutant à vélo. C'est un col formidable, réservé au vélo, donc ça c'est vraiment incroyable. Et puis pour un amateur comme moi, se mesurer à un col que font les professionnels du Tour de France, on se rend compte que c'est quand même... Ils pratiquent pas le même sport.
Ouais. Vous faites toujours du yoga ?
Toujours à Londres. C'est bon pour la forme, c'est bon pour la souplesse. Toujours un maximum de sport à Londres, à Paris ou en montagne.
François Perraudeau, nous terminons enfin, si j'ai envie de dire, enfin 2021. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'année 2022 qui s'ouvre enfin à nous ?
Eh ben, déjà que ce que vous venez de dire se confirme, c'est-à-dire un petit peu de retour à la normalité, parce que je pense que les Français, enfin tous les hommes en général et les femmes en ont un petit peu marre de cette situation. Donc espérons que la vie puisse revenir un petit peu à la normale et puis un beau palmarès sportif en LMP2.
François Perraudeau, pour cette dernière journée de l'année 2021, merci d'être venu parmi nous.
Merci à vous.